1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Et David se leva et descendit au désert de Paran. Et il y avait à Mahon un homme qui avait ses affaires à Carmel. Et cet homme était très riche. Il avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Et il était à Carmel pendant qu'on tondait ses moutons. Et le nom de l'homme était Nabal, et le nom de sa femme Abigaïl. Et la femme avait du bon sens et était belle de visage. Et l'homme était dur et méchant dans ses actes. Et il était de la race de Caleb. Et David apprit dans le désert que Nabal tondait ses moutons. Et David envoya 10 jeunes hommes, et David dit aux jeunes hommes, « Montez à Carmel, entrez chez Nabal, saluez-le en mon nom, et vous lui direz ainsi, « Vis longtemps, et paix te soit, et paix à ta maison, et paix à tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai entendu dire que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous et nous ne les avons pas molestés, rien n'a manqué du leur tous les jours qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens et ils t'en informeront. Que les jeunes hommes trouvent donc grâce à tes yeux, car nous sommes venus dans un bon jour. Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que ta main trouvera. Et les jeunes hommes de David vinrent et parlèrent à Nabal selon toutes ces paroles au nom de David et ils se tinrent tranquilles. Et Nabal répondit aux serviteurs de David et dit « Qui est David ? Qui est le fils d'Isaïe ? Aujourd'hui, ils sont nombreux les serviteurs qui se sauvent chacun de son maître. Et je prendrai mon pain et mon eau et ma viande que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des hommes dont je ne sais d'où ils sont. » Et les jeunes hommes de David rebroussèrent chemin et s'en retournèrent et ils vinrent et lui racontèrent selon toutes ces paroles. Et David dit à ses hommes, « Saignez chacun votre épée. » Et ils saignirent chacun leur épée et David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent après David et 200 restèrent près du bagage. Et un jeune homme des gens de Nabal informa Abigaïl, femme de Nabal, disant, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour bénir notre maître, et il s'est emporté contre eux. Et les hommes ont été très bons pour nous, et nous n'avons pas été molestés, il n'a rien manqué de ce qui était à nous, tout le temps que nous avons marché avec eux pendant que nous étions au champ. Ils ont été une muraille pour nous, de nuit et de jour, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le menu bétail. Et maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car le mal est décidé contre notre maître et contre toute sa maison, et il est trop fils de Bélial pour qu'on parle avec lui. » Et Abigaïl se hâta et prit 200 pains et 2 outres de vin et 5 moutons tout apprêtés et 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux de raisins secs, 200 gâteaux de figues sèches et les mit sur des ânes et dit à ses jeunes hommes, « Passez devant moi, voici je viens après vous. » Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Et comme elle descendait, montée sur son âne, à couvert de la montagne, voici David et ses hommes descendaient au-devant d'elle, et elle les rencontra. Et David avait dit, « Certainement, c'est en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme avait au désert, et que rien n'a manqué de tout ce qui était à lui. » Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ainsi aux ennemis de David et ainsi y ajoute, si de tout ce qui est à lui, je laisse jusqu'à la lumière du matin un seul homme de reste. Et Abigaïl vit David, et elle se hâta, et descendit de dessus son âne, et elle tomba sur sa face devant David, et se prosterna contre terre. Et elle tomba à ses pieds, et dit : À moi l'iniquité, mon Seigneur. Moi, je te prie, que ta servante parle à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur, je te prie, ne fasse pas attention à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est tel que son nom est Nabal, fou, impie, et la folie est avec lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes hommes de mon Seigneur que tu as envoyés. Et maintenant, mon Seigneur, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que l'Éternel t'a empêché d'en venir au sang et de te faire justice par ta main. Et maintenant, que tes ennemis et ceux qui cherchent à faire du tort à mon Seigneur soient comme Nabal. Et maintenant, voici ce présent que ton esclave a apporté à mon Seigneur pour qu'on le donne aux jeunes hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la transgression de ta servante, car l'Éternel fera certainement une maison stable à mon Seigneur, car mon Seigneur combat les combats de l'Éternel, et la méchanceté n'a jamais été trouvée en toi. Et un homme s'est levé pour te poursuivre et pour chercher ta vie. Mais la vie de mon Seigneur est liée dans le faisceau des vivants par-devers l'Éternel ton Dieu, et l'âme de tes ennemis, il la lancera du creux de la fronde. Et il arrivera que, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur selon tout le bien dont il a parlé à ton sujet, et qu'il t'aura établi prince sur Israël, ceci ne sera point pour toi une occasion de chute, ni un achoppement pour le cœur de mon Seigneur, d'avoir sans cause versé le sang, et que mon Seigneur se soit fait justice à lui-même. Et quand l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Et David dit à Abigaïl : Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui, en ce jour, t'a envoyé à ma rencontre. Et béni soit ta sagesse, et béni sois-tu, toi qui en ce jour m'as empêché d'en venir au sang et de me faire justice par ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du tort, est vivant que si tu ne te fusses hâté et ne fusses venu à ma rencontre, il ne fût pas resté à Nabal un seul homme jusqu'à la lumière du matin. Et David prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit : Monte en paix dans ta maison. Regarde, j'ai écouté ta voix et je t'ai accueilli avec faveur. Et Abigaïl vint vers Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Et le cœur de Nabal était gai et il était ivre à l'excès. Aussi, elle ne lui raconta aucune chose, ni petite, ni grande, jusqu'à la lumière du matin. Et arriva le matin, quand le vin de Nabal eut passé, que sa femme lui rapporta ces choses, et son cœur mourut au-dedans de lui, et il devint comme une pierre. Et arriva environ 10 jours après, que l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. Et David apprit que Nabal était mort, et il dit : Béni soit l'Éternel qui a pris en main ma cause, touchant l'outrage que m'avait fait Nabal, et qui a retenu son serviteur de faire le mal. Et l'Éternel a fait retomber le mal de Nabal sur sa tête, et David envoya parler à Abigaïl afin de la prendre pour femme. Et les serviteurs de David vinrent vers Abigaïl à Carmel et lui parlèrent, disant : David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Et elle se leva et se prosterna le visage contre terre et dit : Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et Abigaïl se leva en hâte et monta sur un âne, et ses 5 jeunes filles qui la suivaient. et elle s'en alla après les messagers de David et fut sa femme. David avait pris aussi Akinoam de Jizréel. Elles furent toutes les deux sa femme. Ce récit à la fois est bien connu, même des jeunes enfants, mais il est souvent connu par l'audace, la décision de Abigail, par le bien qu'elle a fait de façon inattendue. Mais disons que, comme beaucoup de ces récits des livres historiques, les choses nous sont racontées à la fois de façon très factuelle, mais à la fois elles sont racontées de façon très précise, avec une intention de l'Esprit de Dieu, et il faut comprendre exactement les détails, et tous les détails ont de l'importance, et il ne faut pas y voir simplement des récits, des histoires intéressantes. Alors, on se trouve donc dans la situation générale était la suivante. On avait donc David qui était pourchassé par Saül. Saül avait réalisé, après l'affaire de Goliath, il avait réalisé que David était un concurrent potentiel très dangereux pour lui, et en fait c'était juste, mais Saül ne considérait les choses que par intérêt personnel, par orgueil d'être le roi, et n'était pas le roi selon la pensée de Dieu, qui comptait sur Dieu et qui s'appuyait sur lui. Et David, c'était tout le contraire. Et dès avant l'affaire de Goliath, quand il était déjà berger, dans sa simplicité, il s'appuyait sur Dieu et sur les délivrances. Et alors, à partir du chapitre 20, Saül a menacé David de le tuer. David s'est enfui, et on le voit au chapitre 21, il va auprès du grand sacrificateur, il mange les pains sacrés, il est en fuite, il prend l'épée de Goliath. Chapitre 22, il prend refuge dans une caverne, la caverne d'Adullam, et tous les hommes qui étaient dans la misère, dans les dettes, dans l'amertume, tous s'assemblent auprès de lui. Ils étaient 600 hommes, je crois, ou au moins 400. Et ensuite, on le voit. Alors, on le voit dans cette situation très difficile où il était loin de l'Éternel, mais Saül avait été loin précédemment. Et David était le roi selon Dieu, mais Dieu permettait cette situation que Saül existait encore en force et au pouvoir, et que David ne pouvait rien contre lui. Et alors il y a toute cette période intéressante des chapitres 21 à 27 où on voit David pourchassé, essayant de survivre au travers de circonstances plus difficiles les unes que les autres, mais où Dieu lui demandait de lutter pour le bien de son peuple. On a cela spécialement dans le chapitre 23, alors que les Philistins attaquent Israël, au lieu que ce soit Saül le roi en place qui devrait normalement défendre Israël, voilà que Dieu demande à David, avec ses quelques 600 hommes, d'aller vaincre les Philistins, et il obéit et il y arrive, et les délivrances commencent. Et alors on voit cette, cette situation étrange où celui qui a le plus d'importance, le plus de pouvoir, le plus d'apparence extérieure, eh bien, il ne s'occupe pas de son peuple, il ne s'occupe pas du bien de son peuple, et c'est celui qui est misérable, poursuivi, chassé, méprisé, qui agit et qui doit agir pour le bien de son peuple. Et déjà, cette situation générale est très frappante. Frappante et instructive pour nous. Alors ensuite, on a, ça c'est le côté de David. Ensuite, on a cette situation de Nabal et Abigail. Alors, c'était un couple, malheureusement, un couple complètement de travers et complètement déséquilibré, avec un homme méchant et une femme. Il est dit, elle avait du bon sens et était belle de visage. Il y a plusieurs reprises, il est parlé dans la parole de Jean, d'hommes ou de femmes qui étaient beaux de visage, mais quand l'Écriture mentionne cela, c'est en réalité un reflet de l'état intérieur. Et ce n'est pas simplement une beauté extérieure qui est soulignée par l'Écriture, mais c'est une beauté intérieure. Et pourquoi ce couple était de cette manière, l'origine de cela ne nous est pas dit, et il n'y a pas d'instruction à cet égard à retirer, le fait était là, et le fait était là, les liens qui se formaient dans l'Ancien Testament étaient aussi dans des conditions très différentes de ce qui est conforme aux instructions du Nouveau Testament. Mais donc on a cette situation d'une femme qui est mariée à un homme détestable. Il avait en plus de ça cette particularité d'être, il est dit, de la race de Caleb. Et alors on connaît tout le récit de Caleb dans le livre de Josué, où c'est un homme énergique pour Dieu, qui a combattu les géants, les Anakim, qui a contribué à la délivrance de non seulement de Hébron, mais d'autres parties du peuple de Dieu. C'était avec Josué les deux seuls hommes qui ont eu la foi pour survivre les 40 ans dans le désert et ne pas tomber avec les incrédules. Alors, quelle chose douloureuse de voir qu'un de ses descendants a conservé son énergie, mais sans la piété et sans la foi. Mais Dieu avait permis cette situation. Je dis bien permis, c'est pas du tout approuvé. Et alors, donc, son épouse, alors, où il est simplement dit dans le verset 3 ce que nous avons déjà dit du bon sens et belle de visage, mais en réalité il y avait beaucoup plus. Il y avait donc c'est la suite du récit, montre une intelligence spirituelle, mais c'est pas seulement une intelligence spirituelle, c'est en plus de ça une connaissance de David, connaissance de celui qui avait l'approbation de l'Éternel, et connaissance de ce que l'Éternel voulait faire avec David. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment la connaissance des pensées de Dieu. Et alors c'est en cela que ce chapitre est instructif. Et de voir dans un exemple pareil donné dans la parole d'un couple où la femme a une pleine intelligence des pensées de Dieu et est obligée de marcher avec un mari qui est, comme il est décrit, dur et qui n'a pas aucun sens de ce qui convient selon Dieu. Alors, ce qui est remarquable aussi dans les choses que Dieu permet, c'est que, en général, il ne permet pas une seule chose, il ne fait pas une seule opération. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de Nabal, il s'occupe de Abigaïl, il s'occupe de David, et derrière David, il s'occupe du résidu fidèle en Israël et du bien du peuple de Dieu. Et c'est une des sagesses extraordinaires de Dieu qui fait concourir des circonstances où il arrange tout pour faire son travail partout. Et ce chapitre en est justement un exemple, mais c'est une pensée plus générale des manières d'opérer de Dieu. Alors donc, il y a cette situation, David était pourchassé, il avait sa troupe, il allait de ci, de là, on le voit dans les différents chapitres avoisinants, et puis il avait, de près le contexte, on voit qu'il avait protégé positivement les troupeaux et les bergers de Nabal. Il ne nous est pas dit contre quels ennemis, parce qu'au fond, ce n'est pas le sujet du chapitre. On a ça, c'est pas seulement que au verset 7, ils ne nous ont pas molestés, et il n'avait pas molesté les bergers, mais c'est beaucoup plus, parce qu'au verset 16, il est bien parlé, ils ont été une muraille pour nous de nuit et de jour, et il y avait eu une protection positive de David, et non seulement une protection positive, mais il n'en avait même pas profité pour piller un petit peu les troupeaux de Nabal, et il est bien précisé que au verset 7, rien n'a manqué du leur tous les jours, du leur, c'est le leur des bergers, tous les jours qu'ils ont été à Carmel. Donc il y avait une protection directe qui avait été faite, et une protection, non seulement une protection, mais une protection, je répète, sans profiter indûment de sa force et de sa situation. On voit ce soin à ce moment-là de David de marcher avec soin selon Dieu. Alors on voit donc cette Abigaïl qui est informée a posteriori de l'affaire, de l'affaire où Nabal, il est dit, a insulté les envoyés de David et a non seulement insulté, mais surtout il a exprimé hautement son mépris total de David comme étant un rien du tout qui ne méritait pas qu'on l'aide la moindre des choses. Encore une fois, il ne faut pas voir là simplement un récit de quelqu'un qui s'est mis en colère à tort. Il faut voir derrière cette expression l'attitude de quelqu'un du monde, très sûr de lui, très satisfait de ce qu'il a, et ayant le plus grand mépris pour celui qui finalement était une image du Seigneur Jésus, une image de Christ, une préfiguration. Il était l'élu de Dieu et il allait être roi, mais pour Nabal, c'était un rien du tout, ne comptait pas. On voit là déjà une image du Seigneur qui a été aussi rejeté complètement. Et alors, Abigail apprend la chose et elle se hâte et elle prend plus que des initiatives, elle prend sur elle de ramasser des vivres en grande abondance et à prendre des jeunes hommes qui et alors c'est ce qui est remarquable, c'est de voir que c'est remarquable à plusieurs égards. C'est remarquable de voir cette Abigail. Alors on dira, mais elle a pas été soumise à Nabal. Mais au fond, c'était une femme pieuse qui voyait bien que son mari s'égarait et qu'il fallait suivre l'Éternel, il fallait suivre le Seigneur et il fallait pas qu'elle marche dans les voies de Nabal. Et elle le fait sans hésiter. Et on voit bien au verset 18, elle se hâte, elle a pris une décision immédiate et on voit cette énergie de cœur pour marcher selon Dieu. On est heureux aussi de voir les jeunes hommes. Il y a une série de jeunes hommes. Alors bien sûr, elle était la maîtresse dans une maison puissante et humainement c'était normal qu'on tienne compte d'elle, mais on comprend aussi, on voit à plusieurs reprises les jeunes hommes, les jeunes gens ici qui ont compris où est celle qui suit l'Éternel et celle qui mérite d'être aidée. Et ce soin de jeunes gens qui ont compris qui il faut aider dans le service du Seigneur, c'est aussi un exemple tout à fait remarquable et qu'il faut garder dans nos âmes. Alors on voit donc, elle se précipite et elle met les jeunes hommes en premier, et elle va sur son âne pour aller plus vite, et puis donc elle se met à parler à David. Alors là encore, il faut faire attention à la manière dont nous lisons l'Écriture, parce que si nous lisons de manière humaine, charnelle, nous risquerions de dire « mais c'est une flatteuse, elle a dit à David, elle lui fait l'éloge de lui, elle dénigre son mari », mais ce serait tout à fait erroné, j'insiste, tout à fait erroné de s'orienter vers une telle interprétation. Il y a, dans tous ces chapitres, il y a vraiment la pensée de David, image de Christ, qui est le Christ méprisé, pourchassé, dont le monde ne veut rien, et qui ne veut pas l'aider, un monde qui s'enorgueillit de ses biens et de sa richesse, et qui est prêt à enfoncer Christ complètement. Et alors on voit, c'est au contraire au fond, et on voit cette Abigail qui, elle, a tout compris. Et en fait, non seulement elle a compris, mais les détails de ce qu'elle dit sont tout à fait remarquables. Verset 24. « À moi l'iniquité, mon Seigneur, mais je te prie que ta servante parle à tes oreilles. » En réalité, elle avait, je dirais, rien à confesser. Elle n'avait rien fait de mal, elle n'avait fait que du bien. Mais on voit, au fond, elle est prête à encaisser des fausses accusations si elle peut délivrer les siens, délivrer sa maison et, au fond, délivrer le peuple de Dieu. Et puis, elle dit que Quant à son mari, en fait, elle dit, verset 25, de ne pas faire attention à lui, la folie est avec lui. Mais au fond, elle n'en dit pas bien plus. Mais quand elle dit la folie, ce n'est pas simplement une accusation méchante, c'est simplement une accusation de quelqu'un qui ne tient pas compte de Dieu. C'est une façon de dire, mais il marche sans Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates quand il dit que la folie, la sagesse, ou alors c'est dans les Corinthiens plutôt, la sagesse de Dieu est folie pour le monde et la sagesse du monde est folie pour Dieu. C'est la même chose qu'elle est en train de dire. Et puis elle voit, verset 26, « Maintenant, mon Seigneur, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que l'Éternel t'a empêché de venir au sang et de te faire justice par ta main. » Donc elle voit, il ne faut pas, encore une fois, il faut bien ne pas interpréter à tort ces paroles. Elle a la conscience de la main de Dieu, de l'action de Dieu. C'est la première chose dont elle parle, Dieu a agi. C'est pas moi, je m'en suis bien rendu compte et moi j'ai eu de la sagesse pour faire ce qu'il fallait. Non, c'est, elle dit, le doigt de Dieu d'abord. C'est l'Éternel qui t'a empêché de venir au sang. Et au fond, et puis elle dit pas, l'Éternel t'a empêché de faire une chose mauvaise. Elle dit, l'Éternel t'a empêché de te faire justice par ta main. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que si David avait agi en mal contre Nabal, eh bien, c'était, si on peut dire, mérité, c'était justice, c'est ce qu'il méritait. Et elle le dit et l'accepte. Et alors, maintenant, il continue, et maintenant que tes ennemis, ceux qui cherchent à faire du tort à mon Seigneur, soient comme Nabal. Mais dans le moment où elle parlait, il n'était pas arrivé de mal du tout à Nabal. C'est, disons qu'elle était consciente que vu le comportement de Nabal et son état, ça pouvait que mal se terminer. Et alors, c'est pour cela que elle dit que les ennemis soient comme Nabal, c'est-à-dire que c'était une certitude qu'ils iraient à l'échec. Et maintenant, voici verset 27. « Voici ce présent que ton esclave a apporté à mon Seigneur pour qu'on le donne aux jeunes hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. » Aussi frappant, elle ne cherche pas réellement à dire, tu vois, je t'ai apporté quelque chose d'excellent pour toi, parce que, non, c'est la notion de servir, et de servir l'Éternel, et l'envoyé de l'Éternel, servir le Seigneur, et servir ces jeunes hommes, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour lui. Et on va le voir, elle va encore développer cette pensée. Et cet état d'esprit est tout à fait remarquable et mérite d'être suivi. Verset 28. « Pardonne, je te prie, la transgression de ta servante, car elle n'avait rien transgressé, mais c'est la transgression de Nabal qu'elle prenait sur elle. » C'est tout à fait remarquable. « Car l'Éternel fera certainement une maison stable à mon Seigneur, car mon Seigneur combat les combats de l'Éternel, et la méchanceté n'a jamais été trouvée en lui. » En fait, il ne faut pas le voir, ce verset, comme du tout comme une flatterie. C'est au contraire qu'elle était tout à fait au courant. Alors, elle était tout à fait au courant et de ce qu'était David et de la nature des combats qu'il combattait. C'était les combats de l'Éternel et il avait à combattre parce qu'il était rejeté par Saül qui le poursuivait. Et elle le savait et était tout à fait au courant. C'est tout à fait remarquable de voir que cette femme, au fond, n'était pas bien au courant de la méchanceté que Nabal opérait, mais elle était et il était parfaitement au courant de ce que le représentant de Dieu, l'image de Christ, ce qu'il faisait, et quelle était la nature de ce qu'il faisait. Elle était occupée, non seulement occupée du bien, mais occupée de ce qui était actif pour le bien de Dieu et de son peuple. Et la méchanceté n'a jamais été trouvée en toi. Encore une fois, ce n'est pas de la flatterie, c'est elle savait que David avait agi parfaitement. Il était certes connu depuis l'affaire de Goliath, quand les gens ou les femmes disaient « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 », il était connu depuis ce moment-là. Et elle savait donc qu'il n'y avait pas de méchanceté, c'est-à-dire la justice en lui. Et un homme s'est levé, mais cet homme, c'est Saül. Alors cette expression, un homme s'est levé pour te poursuivre et pour chercher ta vie, c'est tout à fait remarquable, parce que même Saül, David va parler de lui plus loin, comme étant loin, l'apostrophe de l'Éternel qu'il fallait respecter. Mais elle, voyant les choses selon Dieu, elle considérait que ce n'était qu'un homme. Et que donc, comme c'était un homme, il échouerait. Il s'est levé pour chercher ta vie, mais la vie de mon Seigneur, elle est liée dans le faisceau des vivants par vers l'Éternel ton Dieu. C'est une façon de dire, mais je sais très bien que Dieu va te protéger, et que Saül, il a beau être puissant le roi, il n'est qu'un homme, et comme il cherche à agir contre Dieu, ben, il ratera, il échouera. Il y a une certitude de la foi qui est remarquable. Alors, et l'âme de tes ennemis la lancera du creux de la fronde, c'est-à-dire qu'ils seront éliminés, et lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur selon tout le bien dont il a parlé à ton sujet. On voit que non seulement elle savait qu'il n'y avait pas de méchanceté chez David, mais elle savait que l'Éternel avait parlé en bien à lui, elle savait qu'il serait établi prince sur Israël. Donc on voit toute l'intelligence qu'elle avait sur Christ et l'avenir de Christ, et qu'il nous soit donné justement d'avoir cette pleine intelligence de ce qui l'est et de ce qui sera de l'avenir du Seigneur. Nous voyons un monde qui s'enfonce, qui décline, c'est plus que du déclin, qui se dévoie à grande vitesse dans une iniquité sans nom, mais on a la certitude que le Seigneur est dans la gloire et qu'il prendra soin des siens et les amènera auprès de lui. Et alors son souci, c'est, verset 31, que ceci ne soit point pour toi une occasion de chute ni un achoppement, d'avoir sans cause versé le sang. On voit que ce souci qu'elle a vis-à-vis de David, c'est pas seulement qu'il réussisse, c'est pas seulement qu'il ait du succès, c'est pas seulement qu'il soit le roi, mais on voit son souci que il soit en paix dans son âme et qu'il n'ait pas de regret d'avoir mal agi, et elle le dit, de s'être fait justice à lui-même. Quand l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alors elle a la certitude que l'Éternel sera avec lui, la certitude que la bénédiction sera de ce côté-là, la certitude, le désir que quand David sera en paix, qu'il n'ait pas de regret d'avoir mal agi. Alors évidemment, ça c'est pas quelque chose à souhaiter par rapport au Seigneur Jésus, à Christ, c'est hors de question. Mais le principe de ce souci-là est tout à fait remarquable. Alors notons bien, je redis, l'importance dans ce récit de voir comment Dieu nous relate tous ces moindres détails, et de voir une femme de foi qui a l'intelligence de ce qui va arriver, l'intelligence des pensées de Dieu, et l'intelligence de la manière dont Dieu va accomplir ses pensées. De ce côté-là, cet exemple d'Abigaïl est tout à fait extraordinaire. Alors, David, on la remercie dans les versets 32 à 35, il l'accueille, je passe rapidement sur cela. On voit que Abigaïl vient vers Nabal. Au fond, elle est, même dans ce détail vis-à-vis de Nabal, elle est tout à fait remarquable. Elle a bien dit que Nabal était animé par la folie, mais elle ne le tient pas pour un rien du tout. Elle tient compte quand même de lui. Elle va lui parler pour lui dire franchement ce qu'elle a fait. Elle a sauvé sa maison, mais elle se dit pas, bon ben, je l'ai fait en douce, je ne le lui dirai pas, et tant pis s'il ne le sait pas. Elle le lui dit, franchement. Alors, elle le lui dit au moment opportun, quand il a cessé d'être ivre. Et puis, effectivement, il est dit, le cœur de Nabal mourut au-dedans de lui. Autrement dit, il en a pris une attaque, tellement il a été furieux et en colère. Mais ça, c'est le côté humain des choses. Le côté de Dieu, c'est que Dieu a opéré. C'est que Dieu a tenu compte. C'est que la folie de Nabal n'est pas rien pour lui. C'est que c'est pas à la légère que Dieu prend une chose pareille. Mais on voit aussi que Dieu intervient, mais il aurait pu intervenir avant. Il aurait pu intervenir quand Nabal s'est mis en colère, avant que Abigaïl fasse tout ce qu'elle a fait. Non. Dieu intervient, mais un peu, si on peut s'exprimer ainsi, c'est un peu comme il fait toujours, de manière inattendue, à la dernière extrémité, quand tout est réglé et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et alors, là aussi, on est frappé, Dieu n'a pas fait tout d'un coup. Son cœur est mort au-dedans de lui, et puis il devint comme une pierre, c'est-à-dire perdu. Et il est tombé dans le coma, mais il est mort effectivement que 10 jours après. Alors, 10 jours qui ont été, à l'évidence, un temps d'exercice qui a été un exercice pour Abigaïl, mais il n'en est rien dit de ces exercices. Mais pour une femme pieuse qui craint l'Éternel, c'est évident que c'était un sujet d'exercice, même d'inquiétude, en se disant, mais il va se réveiller, il ne va pas se réveiller, il va être en colère, il va mourir, qu'est-ce qui va arriver? Le souci. Mais tout ça, c'est des soucis gros, mais on les remet au Seigneur. Ensuite, il y a ce récit que David a voulu prendre Abigaïl pour femme. Alors là encore, il y a le risque de... Faisons bien attention comment nous lisons l'Écriture et ne la lisons pas de travers. Et on voit donc, et David envoie des jeunes hommes, il parle vers fin du verset 39, il parle à Abigaïl de la prendre pour femme, les serviteurs viennent, ils lui disent, verset 40, et puis on a les paroles d'Abigaïl au verset 41. Et là encore, interprétons, comprenons pourquoi la parole de Dieu nous dit cela, et n'allons pas interpréter cela comme de la servilité de bas étage. C'est tout le contraire. C'est, au fond, si elle avait agi de façon, je dirais, humaine et charnelle, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait dit, ben, j'ai bien réussi mon coup, c'est une bonne aubaine, maintenant je me sors du pétrin de ce Nabal, et maintenant j'aurai la paix avec celui qui va être victorieux, le prince sur Israël. Est-ce qu'elle dit ça? Pas du tout. Elle dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et au fond, cette phrase est d'autant plus remarquable que, au fond, elle est en train de dire mon Seigneur David. Il reste, elle ne traite pas d'égal à égal. Elle dit, mais c'est le c'est l'élu de Dieu, celui qui va être prince sur Israël. Eh bien, il a des serviteurs. Et il faut que ces serviteurs du roi, les serviteurs de Christ, soient bien soignés. Et son souci, c'est de, il est dit, de laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Mais cette expression est très belle. Elle veut que les serviteurs de Christ soient soignés en bon état et qu'il leur arrive non seulement qu'il leur arrive du bien, mais qu'ils soient, si on peut s'exprimer ainsi, en pleine forme pour accomplir pleinement leur service. Et alors, au lieu de s'enorgueillir de sa nouvelle position brillante, elle s'abaisse pour servir davantage. Et son premier souci, c'est même pas pour servir le roi, le plus noble, le plus élevé, c'est pour servir les serviteurs de mon Seigneur. Alors cet abaissement, cette volonté de servir, cette volonté de servir les serviteurs du Seigneur, c'est un exemple de toute beauté. Alors donc elle part et puis l'affaire ainsi est conclue. Donc j'en dis pas plus. Mais retenons cet exemple et retenons cette manière dont l'Écriture rapporte les choses, cette manière dont Dieu parle et apprécie ses attitudes. Il y a l'attitude d'une femme dans son couple, l'attitude d'une femme pieuse par rapport à un mari détestable, l'attitude d'une femme pieuse au milieu du peuple de Dieu, l'attitude d'une femme pieuse vis-à-vis de Christ, vis-à-vis des serviteurs de Christ, et bien que tout cela, nous puissions le relire, le peser et l'imiter.